son dernier numéro avant l'été, Radio Clash s'est penché sur les affaires non classées et plus particulièrement sur 5 épisodes de Cold Case. En anglais, le terme Cold Case se traduit littéralement par « affaire froide », une métaphore permettant de désigner les affaires judiciaires, souvent criminelles, non élucidées, les faisant l'objet d'un classement sans suite. Dans chaque épisode, nous vous emmènerons dans un voyage captivant à travers des affaires qui ont défié détectives et enquêteurs pendant des années, laissant derrière elles une traînée d'indices, de questions sans réponse et de secrets enfouis. Ces histoires intrigantes se déroulent souvent dans le passé, ressurgissant dans le présent, avec la promesse d'une résolution qui se fait toujours attendre. Dans l'ordre, nous allons nous plonger dans l'affaire du crash du vol de la Malaysia Airlines 370. Nous suivrons ensuite l'affaire Gérald Thomassin, l'inconnu de la Poste, une affaire d'homicide des plus singulières. Nous partirons chez nous en Belgique et nous intéresserons à l'étrange dossier du dépeceur de Mons. Nous nous pencherons sur la disparition 2007 de la petite Mehdi McCann, qui n'a malheureusement toujours pas été retrouvée. Nous terminerons cette émission par l'affaire du col Dyatlov, cet événement sordide ayant causé la mort de 9 skieurs, randonneurs, dans le nord de l'Oural dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Préparez-vous à être transporté dans un monde où la vérité est insaisissable, où les indices se cachent dans l'ombre et où la résolution est peut-être à portée de main.
Connaissez-vous le mystère du vol MH370? Il s'agit d'un Boeing 777 de Malaysia Airlines qui a disparu dans le sud de l'océan Indien le 8 mars 2014.
C'est avec regret et une profonde tristesse que je dois vous informer. Selon de nouvelles analyses, le vol MH370 s'est abîmé dans l'océan Indien.
In the southern Indian Ocean.
Il est parti depuis l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie en destination de Pékin en Chine. L'avion a disparu des radars et est alors porté disparu. Les derniers mots du pilote étant:
Good night, Malaysian 370.
Il y a donc 239 disparus et aucune trace de l'avion. Les recherches étaient d'abord basées dans la mer de Chine méridionale et la mer d'Andaman. C'est grâce ensuite aux indications du satellite de la société britannique Inmarsat qu'a pu être constitué le trajet exact de l'avion. Il aurait continué sa route pendant des heures dans l'océan Indien.
Dès le départ, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été, enfin, ça fait 4 ans que c'est une suite de choses comme ça, où tout ce qu'on nous dit s'avère être faux, en fait. Donc il y a eu soi-disant on a vu des débris, on n'en a jamais vu, soi-disant on a entendu les boîtes noires, on ne les a jamais entendues, etc., etc., etc. C'est une zone extrêmement surveillée. Si on en croit la version officielle, cet avion a traversé 7 espaces aériens différents.
ils n'ont plus confiance.
Ils répètent sans cesse la même chose. Ils nous parlent sans arrêt des débris dont on n'a rien à faire. Nous, ce qui nous importe, c'est de savoir où sont nos proches. Concernant les opérations de sauvetage, ils changent tout le temps de version. Tout ça, ce sont des mensonges. On a l'impression d'être pris pour des imbéciles.
Aucune réponse concrète n'a été trouvée depuis. Les proches des victimes restent dans l'incertitude de ce qui s'est passé. Et la plupart des recherches sur l'avion ont été suspendues. Ils risquent de ne jamais avoir de réponse.
Le Bureau de sécurité des transports estime que les recherches à proximité des signaux acoustiques peuvent être considérées comme terminées. Selon ces experts, ce n'est pas dans cette zone que repose le MH370.
Que s'est-il passé? Un simple crash suite au suicide du pilote, une désintégration totale de l'avion, des extraterrestres. 26 pays se sont mis à la recherche de l'avion. Quelques années plus tard, des morceaux du fameux avion ont été trouvés sur le littoral de Saint-André, sur l'île de la Réunion. Mais rien ne prouve l'authenticité des débris.
Thank you.
see you in the trees. I'll see you in the trees under the sycamore tree.
L'affaire Thomassin. En décembre 2008, Catherine Burgotte, 41 ans, est tuée à coups de couteau dans la petite poste du village de Lain. Très vite, un marginal, toxicomane et alcoolique, qui habite en face de l'agence, devient le suspect numéro 1, un dénommé Gérald Thomassin. Thomassin n'est pas un paumé comme un autre. Il est aussi acteur de cinéma. Les cinéphiles connaissent son nom, car il a obtenu en 1991 le César de meilleur espoir masculin pour un film de Jacques Doyon, au titre qui résonne désormais tristement avec cette affaire, Le Petit Criminel. Aucun élément concret ne pèse contre lui. Mais pendant 10 ans, les enquêteurs ne lâchent pas la piste Thomassin. L'affaire de Montrel-Lacluse devrait être facile à résoudre. Mais 13 ans après les faits, le mystère reste entier. Et un deuxième mystère s'ajoute au premier. Depuis août 2019, Gérald Thomassin est officiellement porté disparu, après avoir manqué une convocation judiciaire à Lyon. La trace de l'ex-comédien s'est perdue à l'époque, après un contrôle SNCF dans un train reliant Rochefort à Nantes. Un ami avait signalé sa disparition 3 jours plus tard. Depuis, Gérald Thomassin demeure introuvable. J'ai du mal à le dire, mais je pense que Gérald est mort, estime la directrice de casting Marie Delobier, qui était également assistante à la réalisation du film Le Petit Criminel. Interrogée sur d'autres hypothèses, Marie exclut d'emblée la fuite ou le suicide. Gérald n'a jamais loupé un rendez-vous judiciaire, confie-t-elle. Il se réjouissait de cette confrontation qui aurait dû laver son nom. Le frère du disparu, Jérôme Thomassin, avance une hypothèse. Il pourrait tomber dans un guet-apens tendu par des honnards qu'il fréquentait. Philippe Bonaventure, un bon ami de l'acteur, rajoute « Gérald allait facilement vers les gens, il était naïf. » Aujourd'hui encore, l'affaire reste non élucidée et l'illusion de retrouver Gérald Thomassin en vie est réduite à néant. Malgré tout, Jérôme, lui, garde l'espoir de comprendre un jour ce qu'il est arrivé à son frère.
Le dépeceur de Mons. En mars 1997, des sacs poubelles contenant des restes humains sont petit à petit découverts dans la région montoise. Au total, 37 morceaux de corps provenant de 5 victimes féminines sont retrouvés. Alimentant la psychose, le tueur déposait des sacs poubelles dans des lieux aux noms évocateurs, comme l'avenue des Bassins, la rue du Dépôt, sur le chemin de l'Inquiétude et de Bethléem, ou encore dans la rivière Aisne. On découvrira ensuite que toutes les victimes avaient l'habitude de fréquenter le quartier de la gare de Mons et connaissaient des difficultés économiques ou familiales. Plusieurs suspects ont été envisagés, mais le tueur, appelé depuis lors « dépeceur de Mons », n'a jamais été retrouvé. Le 22 mars 2022 sonnent les 25 ans de l'affaire dite du « dépeceur de Mons ». Les restes humains de 5 femmes sont retrouvés dans des sacs poubelles. Intriguée et passionnée par ce crime non résolu, Morgane Van Leurberg sort son livre nommé « Il est moins 5 ». À travers cet ouvrage rédigé en binôme avec Dani Corlana, il souhaite donner la parole aux familles des victimes. Il propose aussi des nouvelles pistes d'investigation. Encore aujourd'hui, cette affaire reste un mystère aux yeux de la justice et aucun suspect n'a été arrêté depuis février 2010 malgré les plus de 1000 dénonciations faites.
rebondissements, elle dure maintenant depuis 16 ans, la disparition de la petite Madi McCall.
La police de la firme britannique s'est évaporée en sortant de nouvelles recherches pour retrouver la Madi McCall. Cette fois-ci, les fouilles ont lieu dans un lac artificiel au sud du Portugal.
Le 3 mai 2007, une petite fille prénommée Madi McCall a disparu au beau milieu de la nuit. Revenons sur le début de cette affaire. Madi McCann joue sous le soleil de Paria da Luz avec ses frères et sœurs. La famille McCann est partie accompagnée de leurs amis au Portugal. Ce couple de médecins britanniques en avait bien besoin. Après une longue journée et un bon repas, les enfants partent se coucher, pendant que les adultes se dirigent ensemble au restaurant de l'hôtel. Les parents instaurent un tour de garde. Le père commence à vérifier si les enfants vont bien. Ils dorment à poing fermé. Quand vient le tour de la mère, toute la vie des McCann va basculer. Le lit vide, la fenêtre ouverte, un enfant au moins. Mais où est Madi ? La mère, sous le stress, commence à alerter tout le monde. Très vite, toute la ville est au courant. Le personnel du complexe, des hôtes, des habitants et bien entendu, les gendarmes. Les frontières et tous les aéroports portugais et espagnols sont mis en alerte. Un site internet est créé par la famille pour recevoir des informations et des fonds. Les recherches commencent, mais vont-elles se terminer un jour ?
Le périmètre est bouclé. Depuis ce matin, accompagnés par des chiens, les enquêteurs fouillent les alentours de ce lac artificiel, sondent les eaux.
Voici quelques pistes parcourues pendant l'enquête. Robert Murat, un père de famille, séjournait aussi à Paria da Luz. Il aidait et traduisait pour la famille. La police le trouvait un peu trop investi dans l'affaire.
13 days after Madeleine's disappearance, Robert Murat was named as a suspect.
Les médias l'ont accusé d'avoir commis des actes pédophiles.
I've tried to move on and my family's tried to move on, but it's always something that I'm linked to. Whenever there's anything that's new, my name gets mentioned in it. So I'd like to see it resolved.
Les parents ont aussi été accusés d'avoir accidentellement tué Madi et d'avoir ensuite simulé une disparition pour s'innocenter.
Dans les disparitions d'enfants, comme Madeleine McCann, âgée de 3 ans, ceux qu'on suspecte en premier sont toujours ceux qui sont responsables de son éducation, les parents et leur entourage. Et donc, il a fallu les entendre, et c'est ce que nous avons fait.
Tout d'un coup, on se dit, et si c'était eux, ceux qui étaient victimes ? Ceux qui étaient parfaits, ce beau couple Ken et Barbie, ceux qui parlent si bien, qui sont tellement éplorés et dont on partage la peine, c'est glaçant.
En 2009, des détectives privés, engagés par les parents de Madi, commencent à s'intéresser à un Britannique habitant à Paria da Luz, Raymond Howlett, condamné à plusieurs reprises pour pédophilie.
Two of the newspapers are reporting that detectives searching for Madeleine McCann are now focusing on a British child rapist.
Mort en 2010, l'homme a laissé une lettre dans laquelle il se dit innocent, mais dénonce un gitan qui aurait enlevé Madi sur les ordres d'un gang. Il ne s'agirait selon lui pas de pédophilie, mais d'un réseau d'adoption.
Début 2023, une jeune Polonaise prétend être la fillette disparue depuis 15 ans.
I make this live because I want to prove that I'm real and I'm honest and I really think that I could be mad then I have some reasons to think like that.
Giulia Fossina, 21 ans, posséderait de nombreuses ressemblances physiques comme une tache sur l'œil droit. Les parents acceptent de faire un test ADN. Toutes ces pistes ont mené à un cul-de-sac.
Ces 16 dernières années, Kate et Jerry McCann n'ont eu de cesse de médiatiser leur combat pour retrouver leur fille. L'enquête a connu de nombreux rebondissements, des dizaines de pistes ont été étudiées.
The mystery of what happened to her has never been solved.
Et aujourd'hui, nous n'avons toujours aucune trace de Maddie.
Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeline.
l'affaire du col Dietlov. Le 25 janvier 1959, une équipe de 9 jeunes étudiants russes décide de partir randonner dans les montagnes de l'Oural. Un mois plus tard, tous les membres de l'équipe seront retrouvés morts, éparpillés dans la montagne, pieds nus, portant uniquement leurs sous-vêtements et sans matériel. Leurs corps sont en très mauvais état et donnent lieu à de nombreuses spéculations.
Le 31 janvier, le groupe se prépare à la traversée du col. Le lendemain, l'expédition commence enfin. Ils pensent probablement dormir la nuit suivante de l'autre côté du col, mais dû aux conditions météorologiques, ils s'égarent et dévient de leur trajectoire. Se rendant compte de leur erreur, ils décident de s'arrêter et camper.
Le soir du 2 février, ils sont donc à 10 km d'Otorten et installent leur campement. Ce sera leur dernière soirée.
Le 12 février, les parents sans nouvelles décident de prévenir les secours. Des avions et des hélicoptères seront utilisés pour essayer de retrouver les disparus.
C'est seulement le 26 février que l'équipe de secours retrouvera le campement abandonné. Ils y découvriront la tente découpée de l'intérieur. Les chaussures et le matériel des aventuriers sont toujours au camp. Il semblerait qu'ils soient partis pieds nus ou en chaussettes, probablement dans l'urgence. En suivant les traces de pas qui mènent à un bois proche, de l'autre côté du col, ils découvrent, sous les arbres, les deux premiers corps, portant uniquement leurs sous-vêtements. Il semblerait qu'ils aient essayé d'y grimper. Entre l'arbre et le camp abandonné, ils retrouvent deux autres corps. Selon la position de ces corps, il semblerait qu'ils aient tenté de regagner le camp.
Une première enquête commence immédiatement après la découverte des deux premiers corps, mais l'examen médical ne révèle pas de blessures pouvant causer la mort. La conclusion de cette première enquête est donc que les randonneurs sont tous morts d'hypothermie. Cependant, cette conclusion sera très vite mise à mal et une seconde enquête sera mise en place.
Les éléments de la seconde enquête étaient de nature à démontrer que la mort des randonneurs n'avait pas été causée uniquement par hypothermie, mais par d'autres facteurs extérieurs. Mais faute d'éléments de preuve, elle sera classée sans suite.
Aujourd'hui encore, nous ne connaissons pas la raison de la mort des jeunes randonneurs, et cette affaire du col Dietlov continue de donner lieu aux plus extravagantes spéculations.
today. Well, nobody made this war of mine, and the moments that I enjoy a place of love and mystery.
Cette émission a été réalisée par les jeunes de l'Entrelien, une implantation de l'école Escale. Merci à Mina, Daniel, Edgar, Arto, Meiva, Maya, Tricia, Héloïse, Siam, Alia et Matteo. On vous souhaite un bel été. Nous nous retrouverons sur Radio Panique dès septembre. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur www.radioclash.be.